Donc, on passe la parole maintenant à Lydie et Gilles qui vont nous parler de Sivens.
Moi, en fait, je vais vous faire un tout petit historique de la lutte de Sivens, qui est un projet qui a été pondu il y a 20 ans, qui a été refusé par les agriculteurs locaux, qui était sur des petites parcelles. En fait, depuis, il y en a pas mal qui ont quitté la paysannerie. C'est devenu des parcelles un peu plus grosses. Et il y avait en fait des gros enjeux d'argent là derrière. Et donc on en arrive du coup pour faire le lien occupation et le côté libertaire. On en arrive en fait à une occupation là-bas avec des gens qui ont déjà eu une habitude dans les luttes, ce qui permet en fait d'avoir tout de suite quelque chose d'assez horizontal avec des AG, avec des décisions. Et avec, en fait, ce qui est intéressant dans le Tarn, c'est qu'il y a un historique sur, par exemple, tout ce qui est bio, écolo, il y a Nature et Progrès, il y a des réseaux antimilitaristes, il y a déjà eu beaucoup de luttes. Et en fait, nous, on y est arrivé un an avant le début du projet. On s'installe dans un petit patelin qui est juste à côté. On entend parler de ça par une association, on va dire, citoyenniste. On joint aux premières manifs et en fait on a aussi fait partie des premiers occupants là-bas. Quoi. Après, pour aller un peu vite, en fait, on arrive à les repousser pendant une petite année. Et puis en septembre, là, branle-bas de combat, il y a 200 CRS tous les jours. Et là, ce qui est intéressant, ce qui se met en place, c'est toute la lutte pacifiste qui permet, en fait, face quand même à 200 CRS armés violents, qui est accompagné par ce qu'on a, peut-être ça existe dans d'autres régions, ça s'appelle le PSIG, qui sont des brigades d'intervention quand même très musclées, très violentes. Du coup, il y a toute cette envie de résister avec des actions non violentes. Il y a eu peut-être une qui était emblématique, c'était les enterrés, c'est-à-dire il y avait 5 personnes qui s'étaient enterrées, il y avait que les têtes qui dépassaient. Quoi. Un peu avant ça, en fait, bah, il y a eu, un peu comme Notre-Dame-des-Landes, en fait, il y a eu les cabanes dans les arbres, il y a eu après, pendant la déforestation, il y a eu des gens qui étaient perchés quand même relativement haut. Donc en fait, c'est assez intéressant de voir aussi comment, par exemple, on passe de lutte de ville où il y a quand même quelque chose qui est très quadrillé, qui se fait sur des boulevards, à quelque chose qui se passe à la campagne ou dans la forêt, où là, il n'y a plus de quadrillage. Alors ça permet, ça c'est mon avis, ça permet aussi, par exemple, au CRS de faire des nouveaux camps d'entraînement. Parce que nous, la première grosse action qu'il y a eu de la part des CRS qui a été de nous déloger pour prendre un autre endroit pour nous après, c'était en fait que des CRS qui avaient 20 ans. Quoi. Et en fait, ils n'avaient aucune expérience, donc ça a permis peut-être ces images que vous avez vues, où il y avait une pelle mécanique avec des gens qui étaient montés dessus. Quoi.
Du coup, j'essaye de voir un peu qu'est-ce que Gilles a pas dit, parce qu'il est allé quand même très vite. Sur la lutte de Sivens, ça ressemble un peu. Il y a des aspects qui sont très proches de Notre-Dame, je pense, avec des acteurs locaux qui ont été au courant du projet, du départ, qui ont commencé à attaquer sur un terrain légal. Et au bout d'un moment, il y a d'autres acteurs qui se sont greffés là-dessus que. On appelle zadiste, alors moi j'aime pas tellement cette arme parce que finalement, ce qui était intéressant sur Sivens par rapport à Notre-Dame peut-être, c'est qu'on était vraiment un microcosme. On n'avait pas des milliers d'hectares, on avait juste 40 hectares, on était 70, 150 selon les périodes, plus ou moins nombreux. Mais du coup, ça donnait un petit peu un regard. On pouvait observer ça un peu à la loupe, comme ça, voir comment ça se passait. Et ce qui se passait, c'est que ce qui était très intéressant, c'est que vraiment, il y avait des gens de tous milieux, de toute tendance, voire de non-tendance, qui se pointait là et qui filait la main d'une façon ou d'une autre et qui s'organisait entre eux de façon horizontale, on va dire, avec toujours la part pour chacun de liberté pour faire ce qu'il a envie de faire, à plusieurs ou seul, avec les limites aussi que ça peut imposer parfois à certains, parce que des fois il y a des actions qui, on va dire, s'entrechoquent. La différence avec Notre-Dame-des-Landes, c'est que nous, sur le terrain, on n'avait effectivement pas tout le monde de notre côté. Et ce qui, je pense, un des aspects qui était assez intéressant quand même, c'est que pendant toute la première période, parce qu'il y a vraiment eu des périodes très différentes au cours de la lutte, il y avait du tout début vraiment, quand donc là vous avez entendu parler de la Métairie-Neuve, je pense, qui a été occupée à partir de octobre 2013. Donc ça a été quelques personnes du collectif citoyeniste qui ont dit c'est pas possible, il faut qu'on fasse comme à Notre-Dame-des-Landes, il faut qu'on occupe le terrain, sinon ils vont passer rapidement. Il y avait des échéances qui s'avançaient et il fallait absolument empêcher que ça se passe. Donc on a fait appel à des camarades toulousains, notamment la première personne qui est venue, qui est un camarade de lutte, voilà, qu'on connaissait de longue date, qui est sur sur la non-violence, enfin sur les luttes non-violentes, comment faire. Et là, il y a eu tout un travail. Toutes les premières personnes qui sont venues, plus ou moins zadistes, dans le cliché que ça peut représenter, de gens qui vivent assez librement et de façon assez mouvante, qui ont fait tout un travail avec les locaux d'information auprès de la population locale, sur les marchés, avec des soupes gratos, avec des tracts à distribuer, de la discussion, et tout. La population locale était vraiment très intéressée et relativement de notre côté. Un des aspects peut-être intéressants, c'est qu'il y avait des gens qui étaient contre. Il y avait les fameux vingtaines d'agriculteurs qui tenaient à la construction de ce barrage et qu'on entend des guerres, qui ont tenté une action coup de poing au départ à la Métairie-Neuve, qui sont venus casser les fenêtres, les portes, enfin faire du saccage pour nous empêcher d'habiter, qui n'a fait que renforcer le mouvement. Mais c'était des gens qu'on n'entendait pas. Et puis la lutte s'est durcie. Et ils ont commencé à s'organiser de leur côté jusqu'à la guerre où là ils sont venus occuper le terrain et faire des milices vraiment virulentes et qui nous ont vraiment, enfin c'était assez incroyable. Et par là ils ont aussi commencé un travail d'information mais complètement hallucinant et ils ont vraiment retourné une bonne part de la population contre tout ça s'ajoutant à après le meurtre de Rémi Fraisse, la colère des gens, les trois vitrines légèrement dégradées avec des tags ou je ne sais quoi, qui ont commencé à exaspérer les gens. Et là-dessus, ils ont monté tout un truc sur le zadiste extrême gaucho là qui casse tout devant lui, alors que pendant des mois, plus d'une année, il y avait vraiment une opinion plutôt favorable, malgré les dreadlocks, malgré les chiens, malgré la boue, malgré tout ce que vous imaginez, quoi. Voilà. Par rapport à ce que tu disais là sur la défense, enfin, je trouve pas que moi, l'histoire de contention l'histoire de la défense des droits, enfin, qu'on est plus sur de la défense des droits, je suis pas très d'accord avec toi, parce que je pense que c'est quand même des droits fondamentaux qui sont défendus sur ces luttes-là, quoi. Après, sur l'histoire de ce dont tu parlais aussi, sur l'histoire des ludites, là, pour moi, il y a aussi un truc assez étonnant, parce que d'un côté, on veut casser les machines, enfin, il y a cette option de vouloir casser les machines, du travail, etc., mais de l'autre côté, il y a l'impossibilité d'entrevoir la lutte sans les outils technologiques, et notamment Facebook. Enfin, on a eu des débats aussi sur est-ce qu'on utilise les outils de contrôle et de flicage pour diffuser la lutte. Et voilà, bon, je crois que c'est à peu près. Sur la mort de Rémi Fraisse, c'est je peux pas dire c'est une suite logique, je peux pas dire moi je m'y attendais, ouais, Marc il va répondre. Moi ce que je dirais juste c'est que de toute façon on a été confronté à une violence grandissante, toujours plus. Et vraiment, ça, je tiens à rajouter quand même sur ce qu'a dit, et je pense que, je ne sais pas, Rémi Fraisse, il a été décrit quand même comme quelqu'un de plutôt pacifiste. Moi, ce que j'aimerais souligner quand même, c'est que les actions qui ont mené à quelque chose vraiment de significatif, ça ne servait à rien, parce que de toute façon, ils sont passés, mais les actions fortes qui ont fait retarder les machines et qui ont eu un impact, même s'il était vraiment une goutte d'eau dans l'océan, c'est des actions pacifistes où des gens se sont vraiment impliqués comme les enterrés, comme les gens qui montaient en haut des arbres. C'est des gens qui ont risqué leur vie mais qui ne sont pas morts. Et là, on se retrouve dans une situation complètement, enfin pour moi subjuesque. Marc, vas-y, dis quelque chose parce que moi je...
On va finir la table ronde et après... ou tu veux répondre tout de suite à Lydie ou... C'est un complément peut-être. Après, ouais. Et tu répondras après, ouais. Ouais. C'est bon. Donc merci Lydie et Gilles.